Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours d'Isée Echorn à la préparation, Valérie Lavalard à la technique et Fanny Constant à la réalisation. Merci à Richard Langevin pour son aimable autorisation et à Ingrid Lecointe pour les archives de l'INA.
France Musique.
Il est midi sur France Musique. Tout de suite, retrouvons Sébastien Lignares.
France Musique, guitare, Sébastien Lignares.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les studios des guitare. Je suis ravi de vous retrouver à l'antenne de France Musique. Aujourd'hui, musique ancienne et instruments d'époque, on va aller notamment en Italie explorer en particulier le début du XVIIe siècle, une période passionnante qui fait la transition entre la fin de la Renaissance et le commencement de l'ère baroque. C'est une période musicalement incarnée par Claudio Monteverdi, mais qui a été portée bien sûr par nombre de musiciens importants et parmi eux, Bellerofonte Castaldi et un peu plus tard, Domenico Pellegrini. La luthiste, théorbiste et guitariste Alban Imbs vient de leur consacrer un enregistrement dans lequel elle est accompagnée du grand Rolf Lislevand. Elle sera notre invitée tout à l'heure, on parlera avec elle de ce nouveau projet qui s'intitule Capricci et qui est sorti sur le label Alpha Classic. On l'écoutera nous jouer de son turbino et sa guitare baroque. Dans Guitare de légende, je vous raconte l'histoire du Canario de Gaspard Sanz, cette petite pièce baroque, légère et dansante, qui a eu beaucoup d'influence sur tout le répertoire espagnol. Mais pour l'heure, rentrons dans l'univers de Castaldi. J'avais découvert pour ma part sa musique et son existence même, avec un disque incroyable du Poème harmonique. L'ensemble mené par le guitariste et théorbiste Vincent Dumestre. Un disque qui commençait comme ça.
Thank you.
Les Musiche de Bellerofonte Castaldi, le tout premier disque sorti en 1998 du poème harmonique mené par Vincent Dimestre, un disque merveilleux qui annonçait la couleur de cet ensemble essentiel qui nous a fait depuis découvrir tant de choses quand on suit le fil de leur production. On entendait une musique avec beaucoup de caractère et de poésie, captivante et surprenante même à chaque minute. D'abord un arpège de théorbe qui paraît improviser des harmonies complexes et agitées, soutenues par les viols de gambe, puis une pièce vocale Econoturno qui évoque un peu les ambiances à la Monteverdi avec une voix qui s'éloigne et qui disparaît comme ça progressivement. Une musique qui porte en elle un mystère et qui pose pas mal de questions à ceux qui veulent l'interpréter. Pour la plupart des pièces, Castaldi précise qu'il ne s'est pas soucié de donner d'indications de tempo, de phrasé, de dynamique, d'ornement ou de doigté parce que, selon ses mots, celui qui aura le talent de jouer ce qui est noté saura bien trouver le reste. Thank you. Belero Fonte Castaldi visite le thème de la folia et en propose une version très riche avec des ornements un peu fous qui se répondent à la fin comme un tourbillon. C'est magnifique, c'est toujours le poème harmonique. Si la forme de la pièce est classique, attaché aux traditions de son temps, le traitement qu'il en fait est tout à fait novateur. D'ailleurs, une composante essentielle de l'art de Castaldi, c'est son goût pour l'étrange. Et dans le prochain extrait, il y a des chromatismes particulièrement piquants qui troublent l'effet de la tonalité et montrent la connaissance profonde qu'avait Castaldi des nouvelles formes musicales de son époque. Ce nouveau stylo très expressif est cher à Monteverdi.
Thank you.
France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Thank you.
Vous êtes donc à l'écoute de Guitare Guitare et c'est le moment pour nous d'accueillir notre invité. Bonjour Alban Imps.
Bonjour Sébastien.
Alors on est ravis de vous avoir à ce micro, en vrai cette fois-ci, puisque la première fois on était
en
distanciel, en plein Covid, hein, c'est ça. Et cette fois-ci vous avez pu apporter avec vous des instruments, une guitare baroque et un autre instrument que je vais vous demander tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cet instrument ?
Eh bien, c'est un tiorbino.
Okay.
Donc le tiorbino, comme son nom l'indique, c'est un petit théorbe, puisqu'en italien, tout ce qui se termine par « ino » signifie « plus petit okay. que », et donc plus petit que le théorbe qui est son grand frère, et donc il sonne une octave au-dessus, que le théorbe qui a des graves profondes. Là, on est plutôt sur un son angélique de harpe.
On va entendre ce son. Donc c'est une sorte de théorbe, mais plus aigu.
Voilà, avec 14 cordes, et puis un grand jeu qui se compose d'une gamme de basses graves, en fait, comme ceci. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol.
Très bien. Et donc ce tiorbino est la vedette de votre dernier disque.
Tout à fait.
Que vous venez de sortir chez Alpha Classique, un très beau disque qui s'appelle Capricci et qui est consacré à deux compositeurs, Bellerofonte Castaldi et Domenico Pellegrini. Et il me semble que ce sont deux personnalités qui sont très différentes. Un premier un peu exubérant et un autre un peu plus introverti. Qu'est-ce qui vous a poussé à rapprocher ces deux compositeurs ?
En fait, on ne sait pas exactement, on sait pas grand-chose, pardon, de la vie de Pellegrini, malgré le fait qu'il semblait être un compositeur extrêmement important pour son temps, puisque Gaspar Sanz le cite comme un des meilleurs compositeurs pour guitare italien.
Oui.
Donc, il avait une véritable renommée. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. On sait aussi qu'il faisait partie de l'Académie dei Filomusi, comme Monteverdi et Merula, notamment, qui était une corporation d'intellectuels bolognais. Mais c'est tout. Et c'est complètement le contraire chez Castaldi, où on a énormément d'informations sur son passé.
Oui, parce qu'il écrivait.
Il écrivait, voilà, tout à fait. Il a écrit son autobiographie en vers. Il a écrit beaucoup de correspondances avec ses divers amis intellectuels de l'époque. Et donc, on a énormément de traces, voilà. Plus le fait qu'il a effectivement écrit ce livre. Et il dessinait, il faisait de la gravure. Donc, ce qui m'a poussé à rassembler ces deux artistes qui pourtant n'ont pas grand-chose à voir entre eux de prime abord, c'est leur goût pour la musique quelque part de la Renaissance. On sent très fort chez Castaldi et chez Pellegrini qui a encore vraiment un amour pour la prima pratica, qui moi m'inspire beaucoup parce que je suis issue du luth Renaissance, j'ai commencé avec le luth, donc ça me parle cette musique-là. Et puis tous les deux ont de véritables affinités avec le luth Renaissance. Pellegrini pratiquait certainement le luth Renaissance aussi, il a appris auprès de Piccinini, et Castaldi aussi.
Thank you. La guitare de Pellegrini ressemble un peu au jeu du luth, je trouve.
Hein, exactement.
Vraiment, elle est ancrée là-dedans.
Castaldi aussi, tous les deux, par leur forme, ils choisissent des formes un peu archaïques. Ouais. Par exemple, des Gaillards, des Canson, qui s'apparentent un peu à des Richard Carr, qui sont déjà des formes complètement désuètes pour l'époque. Donc, ils choisissent des formes un peu archaïques, qu'ils traitent de façon parfois horizontale, donc comme ça se faisait dans la Prima Pratica. Et donc, on a vraiment un jeu de luth, ce qui se sent même encore plus fort chez Castaldi, où on a l'impression de jouer du luth sur le théorbe par moment.
Oui, c'est ça. C'est un répertoire qui n'est pas si fréquenté, en fait, finalement, qu'on ne connaît pas beaucoup. Dans ce disque, j'ai découvert les duos de théorbe et turbino, avec, c'est vraiment, je trouve, une écriture particulièrement intéressante.
Je pense que quand on vient du luth, il y a quelque chose qui parle assez naturellement dans cette musique. Et après, pour ce qui est des duos, c'est vrai que c'est un travail assez... intense et riche, parce qu'on est avec des instruments qui, à eux deux, font 5 octaves. Donc on a l'impression d'avoir une harpe géante.
Une tessiture.
Voilà, une
incroyable.
Tessiture absolument incroyable. Et le tout, c'est d'arriver à mêler les deux instruments pour ne faire qu'un, que la forme des arpèges, la forme des mélismes, des lignes, semble être faite par un seul instrument, comme si on avait quelque part une harpe ou un piano. Donc c'est... assez délicat, entre guillemets, puisqu'on est avec des cordes pincées, donc chaque petite note compte.
Et alors, dans ce disque, vous jouez avec Rolf Lislevand. Racontez-nous un petit peu cette rencontre artistique.
Rolf, c'était mon professeur au CNSM. Okay. Donc, c'est sûr que je suis nourrie de sa façon de voir la musique. Et ça m'inspire énormément au quotidien. C'était assez naturel que je lui propose, puisqu'en plus, il a enregistré ce disque, d'être le théorbiste des duos Tiorbino et Théorbe. Orb. Oui, on a fait dans ce sens-là parce que Rolf étant plutôt grand, c'est lui qui avait le gros instrument et moi le petit.
J'imagine que dans cette littérature-là, il y a pas mal de problèmes, enfin pas de problèmes d'ailleurs, mais de mystères dans l'interprétation. Qu'est-ce que doit faire l'interprète? Est-ce qu'on a des traces de ce qu'on doit réellement faire ou est-ce qu'il y a une part créative importante quand on aborde ces répertoires?
Il y a une part créative énorme, à vrai dire, puisque...
D'interprétation, en fait.
La musique ancienne, à part les notes et le rythme sur la partition, il n'y a pas grand-chose. On doit tout réimaginer, les nuances, les tempi. Bien sûr, quelques indications, pistes. Quelques pistes. Mais toujours est-il que tout ça, ça reste les ornements qui sont pour la plupart pas notés non plus. Les variations qu'on y ajoute. Par exemple, dans Pellegrini, on a une texture, une matière très, très simple, très peu de choses. On a vraiment souvent même pas de variations par rapport aux danses notamment. Et ça invite à enrichir cette musique-là, même harmoniquement, mais il y a très peu de choses. D'accord. Ça invite à nourrir, à y rajouter. Et lui-même dit d'ailleurs, au début, dans sa préface, que cette musique, elle ne peut pas se jouer si on n'est pas professionnel ou sans l'aide d'un professeur. Parce qu'en fait, il y a tellement peu d'informations que ce n'est pas fait dans son idée pour ceux qui ne connaîtraient pas les clés de cette musique-là. Mais nous, on les a un petit peu perdues. Donc, c'est là qu'il faut faire marcher.
En fait, cette musique, elle est faite pour ça. Elle appartient vraiment à l'interprète.
Dans cette musique-là, il y a... Je sens une énorme nostalgie. Pour moi, ça fait ressortir pour moi un imaginaire du Seicento italien vraiment très très fort. Et en même temps, je suis là avec mon vécu femme du 21e siècle. et c'est incroyable, c'est magique pour ça, la musique ancienne.
Est-ce que justement, on parlait de la vie de Castaldi tout à l'heure, qui a été quand même apparemment un peu agitée, voire rocambolesque. Et est-ce que l'interprète s'inspire de toutes ces histoires? Est-ce qu'il est dans son imaginaire? Est-ce que ça joue proprement sur la musique? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de ne pas y faire attention et on regarde que le texte?
De toute façon, Castaldi a écrit cette musique-là avec son tempérament, ses aventures.
Oui, ça fait partie du...
Donc, immanquablement, ça ressort dans l'esprit de ses œuvres. Moi, j'ai commencé à jouer ces pièces. Je ne m'étais pas renseignée au fond sur la biographie de Castaldi. Donc, j'ai un peu découvert ça au fur et à mesure, en parallèle de mon travail instrumental. Donc, c'est sûr que ça nourrit un peu un imaginaire. Et en même temps, il y a tellement de tableaux miniatures qui émergent. Il part parfois dans des formes très fantaisistes qui sont complètement personnelles. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément besoin de ça pour faire vivre cette musique-là.
Oui, mais le texte parle en lui-même. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça.
Exactement, mais ça compte quand même.
Oui, ça compte quand même. Vous avez donc avec vous vos instruments. On va donc vous écouter deux extraits en live dans nos studios du disque que vous venez de sortir et qui s'appelle Capricci et qui est sorti sur Alpha Classique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux pièces?
La première, c'est une courante qui s'appelle Corrente d'Età la Grimalda, donc à la guitare baroque par Domenico Pellegrini, dans laquelle j'ai rajouté des variations de la seconde partie. Et puis la deuxième pièce, c'est l'Arpeggiata a mio modo de Castaldi, qui sera joué ici au Tiorbino, bien qu'il ait probablement été écrit pour le théorbe.
Alban Imps, on vous écoute. Thank you. Merci beaucoup Alban d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous écouter. On va continuer avec vous, mais cette fois-ci avec votre ensemble, les Capsberg Girls, dans cette ère de Michel Lambert. Rocher, vous êtes sourd.
Rocher, vous êtes sourd, vous n'avez rien de tendre, et sans vous ébranler, vous m'écoutez ici. Gardez-vous d'en parler.
Abanims et son ensemble les Capsberg Girls. Vous écoutez France Musique, il est 12h50.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, le Canario de Gaspar Sanz. Gaspar Sanz est un des plus grands guitaristes et compositeurs de l'ère baroque. Avec lui, la guitare espagnole affirme définitivement son caractère et devient un instrument avec une identité musicale originale et pleinement définie. Au sein de la famille des cordes pincées, elle assume désormais ses particularités, elle développe sa singularité et s'impose petit à petit comme la branche principale. En plus d'être musicien, Sanz est également écrivain et prêtre. Il est né et a grandi dans la ville de Calanda, en Aragon, au milieu du XVIIe siècle. Il a voyagé et étudié en Italie, à Naples, à Rome, à Venise peut-être. Puis il est revenu en Espagne, a vécu à Madrid, à Saragosse. Comme pour beaucoup de figures historiques, on ne sait pas beaucoup de choses de sa vie. Néanmoins, Sanz nous a laissé des écrits, à partir desquels on a pu déduire quelques faits et esquisser des hypothèses biographiques probables. Surtout, il nous laisse son ouvrage « Instruction de música sobre la guitarra española » édité en 1674, trois livres qui contiennent l'ensemble des œuvres pour guitare. À cette époque, la guitare est baroque. Elle a ajouté depuis quelques années déjà un cinquième cœur, une cinquième corde doublée à l'ancien modèle de la Renaissance qui en comptait seulement quatre. Cette cinquième corde lui a notamment permis d'être particulièrement performante dans le jeu en accord, en rasgueado, et de se faire entendre tant au niveau acoustique qu'harmonique, de développer son propre répertoire et de s'imposer au sein de la grande musique jusque dans le monde de l'opéra où elle colore par exemple la basse continue de Lully avec sa sonorité percussive et directe. L'instrument connaît aussi un grand succès populaire, en partie grâce à ses systèmes de notation, la tablature pour les lignes mélodiques et les arpèges, qui est en fait une représentation des cordes sur lesquelles on indique la case où il faut appuyer, et l'alphabeto, qui est un peu l'ancêtre de la grille d'accords, c'est-à-dire qu'une lettre correspond à un accord précis, et on indique par des flèches le mouvement de la battue de la main droite, une notation ultra efficace que l'on utilise encore aujourd'hui pour écrire les parties guitare dans la pop, dans le jazz, le rock et autres musiques actuelles. Dans ces trois livres de Gaspar Sanz, on trouve des pièces de style rasgueado en accords plaqués qui sont principalement destinées à accompagner des chants et des mélodies populaires. Et des pièces de style punteado, en pincée, plus savantes, basées sur des danses du XVIIe siècle, et qui sont en fait souvent un mélange des deux modes de jeu. Le Canario fait partie de cette deuxième catégorie. C'est une danse de la Renaissance vive et enlevée qui proviendrait des îles Canaries et qui a bien sûr évolué avec les années, mais qui globalement se caractérise par une alternance de mesures ternaires et binaires. Une mesure qui comporte les accents du 6-8 et une autre les accents du 3-4. On appelle ça une hémiole. Et c'est un principe à la base de tant de musiques captivantes, dansantes, festives et profondes, de la Bouleria flamenca jusqu'à Joaquim Rodrigo. Car oui, le début du concerto d'Aranjuez, c'est bien une sorte de canario. Cette danse est un classique, un standard d'une incroyable longévité, encore capable aujourd'hui de nous faire danser et de stimuler notre créativité musicale. Thank you. On se quitte avec ce thème anonyme joué de manière si pénétrante et émouvante par Jordi Savall, Rolf Liselevand et l'ensemble Hesperion 20. La semaine prochaine pour un hommage au flamenquiste Pedro Soler qui nous a quitté cet été. À la réalisation aujourd'hui, Patrick Lérissé, Romain Lenoir et Paul Guig à la technique et à la prise de son et l'aide d'Annie Comier. Très bon week-end à vous tous. N'oubliez pas de visiter le site et l'appli Radio France pour vous abonner au podcast, regarder les vidéos, consulter les programmes et bien sûr nous écrire.
Les aventures d'Octave et Mélo. Une collection de podcasts France Musique à découvrir pour petites oreilles à partir de 3 ans.
Octave et Mélo, nos amis, voisins et musiciens, partent à l'aventure. À la mer, en ville, à la ferme ou à la montagne, ils en font des découvertes. Et la musique est toujours là pour les accompagner.
Les aventures d'Octave et Mélo.